Alors, donc oui, peut-on penser le mal? Vous allez voir, je vais vous proposer un chemin de méditation sur la question du mal, et il me semble que, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, nous pouvons penser le mal. C'est-à-dire que le mal n'est pas simplement quelque chose dont nous faisons l'expérience. Nous avons tous eu mal aux dents, nous avons tous connu la mort d'un proche, et nous avons tous donc une certaine expérience de différentes sortes de maux. Et il faudra donc montrer que cette expérience, nous pouvons l'élever à une certaine pensée, à un certain concept, c'est-à-dire que nous pouvons penser quelque chose du mal. Alors le mal, en même temps, c'est une question immense, une question abyssale, une question redoutable. C'est une question en même temps qui nous touche tous, parce que le mal nous touche tous. Et on pourrait commencer en notant que, il me semble, je me trompe peut-être, mais si l'on organisait un colloque sur le bien, je crains que personne ne vienne, personne ne viendrait. Un colloque sur le mal, en revanche, fait venir. Et c'est peut-être significatif. C'est-à-dire que nous avons peut-être tendance à voir le mal et à ne voir que le mal, et à oublier le bien, à ne pas voir le bien, à ne pas sentir le bien. Alors, nous avons peut-être de bonnes raisons de sentir le mal, du mal aux dents jusqu'au péché, jusqu'à la souffrance, la violence, la cruauté. Les médias, tous les jours, nous abreuvent et nous écœurent de toute une violence déballée, montrée, exhibée. Il y a quelque chose d'obscène, littéralement, dans cette façon de mettre en scène la violence. On pourra en reparler après. Donc nous avons par là une certaine obsession, une certaine fascination aussi peut-être pour le mal. Je prends un simple exemple. Regardez le succès des films de terreur, comme on appelle ça, fantastique, oui, c'est ça. Mais moi, ça me terrifie. Enfin, de voir que ces films-là ont un tel public, il y a des gens qui sont prêts à payer, qui vont régulièrement voir ces films, qui ont besoin de cassettes chez eux, pour voir des choses tout à fait épouvantables. Donc là, il y a quelque chose d'étonnant, mais que nous pouvons essayer de méditer et de comprendre en tant que théologien, en tant que philosophe, en tant que chrétien, c'est-à-dire comprendre cette fascination chez l'homme pour le mal. Bon, ça c'est un peu le préambule. Je commencerai par un autre point, qui est le soleil. Le soleil brille ce matin, les oiseaux sont à peu près dans les champs, enfin dans le ciel. Donc nous avons ici, nous sommes à Montagneux, donc la nature est très belle. J'étais très heureux hier de retrouver les montagnes. Mais voilà, ce soleil qui brille, et nous qui sommes ici, quel rapport y a-t-il entre lui et nous? Certains parmi nous ont mal au dos, d'autres ont mal dormi, etc. Nous avons différentes petites souffrances, ou grandes souffrances éventuellement proches ou lointaines. Et vous allez vous dire, mais que vient faire un philosophe pour parler du soleil qui brille? Vous allez voir pourquoi je vous parle du soleil qui brille. Le problème est le suivant. Le soleil est là depuis plusieurs milliards d'années, d'après l'astrophysique contemporaine. Le soleil, simplement, n'a jamais rien senti et ne sentira jamais rien. Il n'a pas souffert, il ne souffre pas, il ne souffrira jamais. L'homme ne vit que, en gros, une centaine d'années, à peu près, aujourd'hui, enfin, en gros, on peut espérer vivre une centaine d'années, c'est rien comparé aux milliards d'années du soleil. De ce point de vue-là, nous pouvons avoir le sentiment que nous n'avons pas été gâtés, que nous n'avons pas la meilleure part des choses. Le soleil est là pour des milliards d'années, la lune, la terre, les astres, les planètes sont là aussi depuis longtemps et pour longtemps. Nous ne faisons que passer. Donc sommes-nous, sinon à la plus mauvaise place, du moins à une mauvaise place? Il me semble que non. Et ça va dans le sens de ce que je voudrais montrer ce matin, c'est qu'en fait, nous n'avons pas à envier le soleil, ou les pierres, ou les cailloux, ou les animaux, puisque justement, la grandeur de l'homme ici, c'est la grandeur d'un être qui peut souffrir, d'un être qui fait l'expérience du mal. Et finalement, il me semble que cela vaut mieux que d'être le soleil. Sur la Lune, quand vous regardez la Lune, vous avez tous vu en photographie ou à l'œil nu, on voit bien qu'elle a reçu un certain nombre d'impacts, de météores, elle a reçu des coups. Et donc il en reste la trace sur son corps. De même qu'il reste sur notre corps aussi des traces de différentes coupures, de différents chocs, etc. Mais là encore, je crois qu'il vaut mieux être un être humain plutôt que le soleil. Si nous méditons sur ce que j'appellerais la hiérarchie des êtres dans l'univers, nous voyons que, en simplifiant un peu, plus nous montons dans la hiérarchie, moins il y a de durée. Le soleil est là pour des milliards d'années, l'être humain pour, mettons, 100 ans. Mais il y a plus de merveilles, plus de grandeur et de beauté dans le moindre être humain que dans le soleil. C'est-à-dire que la hiérarchie des êtres, au point de vue de la grandeur métaphysique, n'est pas calculable, n'est pas fonction de la durée de vie ou de la durée d'existence. Le soleil est là depuis longtemps, mais il n'est pas un être spirituel.